Les infos à Washington.
Devant ce microphone, Nani Talani, il est 12h en temps universel, 13h à Tchad, à N'Djamena au Tchad. Bienvenue à ce bulletin d'information. À Kinshasa, la mairie a autorisé une marche de l'opposition prévue vendredi pour exiger l'abandon de l'utilisation de machines à voter à 2 mois des élections en RDC. L'hôtel de ville nous a écrit pour prendre acte de l'organisation de la marche contre la machine à voter ce vendredi, a déclaré l'opposant Vital Kamerhe, un des 21 candidats à la présidentielle prévue pour le 23 décembre 2018. Une réunion des ténors de l'opposition congolaise est annoncée aujourd'hui et demain à Johannesburg en Afrique du Sud. La désignation d'un candidat commun de l'opposition à la présidentielle est l'un des principaux points à l'ordre du jour de cette rencontre. Au Burundi, le gouvernement a annoncé qu'il serait absent de la dernière session du dialogue de sortie de crise au Burundi, prévue à partir d'aujourd'hui à Arusha en Tanzanie et destinée à évoquer l'organisation d'élections inclusives en 2020. Le mois d'octobre étant un mois de deuil au Burundi, le gouvernement a suggéré un report de la session que la facilitation a convoquée ce 24 octobre et garde l'espoir que cette dernière s'associe comme d'accoutumé aux Burundais dans ces moments de tristesse. C'est ce qu'a annoncé hier soir le gouvernement sur son compte Twitter. Le parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD, a également indiqué hier dans la presse locale qu'il ne serait pas représenté à Arusha si le gouvernement et la facilitation ne s'accordaient pas sur les personnes qui prendront part à la session de la signature de la feuille de route menant vers les élections de 2020. La principale partie de l'opposition togolaise a accusé hier une nouvelle fois le pouvoir de violer les décisions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, alors que des élections législatives et locales sont prévues en décembre. La coalition de 14 partis politiques à l'origine des manifestations qui secouent le pays dénonce des irrégularités dans l'organisation du scrutin et au sein de la commission électorale et dit craindre des fraudes. Au moins 4 personnes ont été légèrement blessées hier à Bamako lors d'une bousculade au siège de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, au lendemain de la destitution contestée du président de cette institution chargée de veiller au bon déroulement des élections au Mali. Le président destitué de la CENI voulait tenir une conférence de presse et nous voulions participer à cette conférence. Il y a eu refus, il y a eu cohue et il y a eu des blessés, dont moi, a déclaré à un membre de la CENI, Sanogo Isiaki, qui a été touché par des éclats de verre. Les autres blessés sont des membres du service d'ordre. Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur les prisons à Madagascar. Des milliers de personnes sont maintenues en détention préventive injustifiée, excessive et prolongée dans des conditions qui mettent leur vie en danger, affirme cette organisation. Morgane Guirec a joint Tamara Léger, conseillère du programme Madagascar pour Amnesty International.
Selon Nelson Chamisa, dirigeant de l'opposition, la première chose à faire pour le pays est de s'engager sur le chemin d'un dialogue politique. Le leader du mouvement pour le changement démocratique, MDC, souligne ensuite que Harare a besoin d'une autorité transitoire nationale pour pouvoir résoudre la crise. Nous sommes prêts à discuter, a dit M. Chamisa, qui a indiqué avoir rencontré des responsables religieux qui réclament l'ouverture d'un dialogue politique entre l'opposition et le président Emmerson Mnangagwa. La crise économique et financière de 2008 a entraîné le pays dans une spirale d'hyperinflation. Les pénuries et les hausses de prix actuelles sont les pires depuis cette période. Les prix de nombreuses denrées de base ont plus que doublé en moins d'un mois. La situation dans les hôpitaux est préoccupante. Au moins 50 personnes sont mortes du choléra depuis septembre. Monsieur Chamisa a déploré l'absence de leadership jusqu'à dire que la nation est orpheline.
Là, il s'agissait plutôt du Zimbabwe avec Eric Manirakiza et non de Madagascar. Et maintenant, comme nous le disions tout à l'heure, Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur les prisons à Madagascar. Des milliers de personnes sont maintenues en détention préventive injustifiée, excessive et prolongée dans des conditions qui mettent leur vie en danger. C'est ce qu'affirme Amnesty International. Morgane Guirec a joint Tamara Léger, qui est conseillère du programme Madagascar pour Amnesty International.
Les établissements pénitentiaires du pays comptent plus de personnes qui n'ont pas été condamnées encore, toujours en attente de jugement, que de personnes qui ont été condamnées. Plus de 50% des hommes qui sont derrière les barreaux, c'est 70% des femmes emprisonnées qui sont en attente de jugement, et chez les enfants, c'est carrément 80%.
Qui sont ces personnes? Pourquoi se retrouvent-elles en prison?
Une grande partie des personnes prévenues sont en prison pour des raisons qui ne justifient absolument pas une détention, et surtout pas dans des conditions telles qu'elles sont. Par exemple, chez les enfants et chez les femmes, il y avait beaucoup de prévenus qui étaient là pour des vols simples, un vol de poulet, un vol de vanille, pour des histoires d'escroquerie. La constitution même de Madagascar dit que la détention préventive doit vraiment être une exception.
Détention préventive qui peuvent durer très très longtemps apparemment.
La loi permet aux détentions préventives de durer plus de 5 ans chez les adultes qui sont accusés des crimes les plus graves et pour les enfants 33 mois. 600 enfants, c'est près de 700 qui sont derrière les barreaux, des conditions déplorables. Ils dorment à même le sol, dans des conditions surpeuplées. Ils n'ont pas accès à leur famille et pas accès à des avocats.
Sur ces conditions de détention qui sont particulièrement difficiles, il y a eu des personnes qui sont mortes en prison.
L'année dernière, il y a eu 129 personnes qui sont décédées, au moins. Et parmi eux, 52 étaient en attente de jugement. Donc c'est-à-dire que ces 52 personnes-là n'auront finalement jamais accès à la justice.
Alors comment expliquer cette situation?
Nos recherches ont montré que la plupart des magistrats semblent adopter une approche assez punitive, alors que dans le droit malgache, les alternatives à la détention existent. Et d'ailleurs, sur le papier, elles doivent vraiment être la priorité. Mais en réalité, on voit bien que très souvent, les hommes, les femmes, les enfants sont mis en détention préventive en attendant leur procès.
Est-ce qu'il y a aussi un problème de moyens?
Le gouvernement a échoué à faire du système de justice pénale une priorité. Donc ce manque de moyens, il s'illustre par le manque de personnel. Hier, on était dans la prison de la capitale, dans une cour où il y avait près de 400 détenus et il n'y avait que deux gardes.
Tamara Léger de Amnesty International du programme Madagascar sur les détentions préventives injustifiées, une situation déplorable qu'on trouve dans beaucoup de pays d'Afrique. En Éthiopie, les parlementaires vont élire demain jeudi le nouveau président du pays suite à la démission de celui qui occupait jusqu'à présent ce poste essentiellement honorifique. Il s'agit donc du président du Parlement. Une séance à laquelle doivent participer les deux chambres du Parlement est prévue à cet effet. Les parlementaires doivent y accepter officiellement la démission du président actuel Mulatu Teshome qui occupait cette fonction depuis 2013, puis élire le nouveau président.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le président américain Donald Trump s'est saisi de la progression d'un cortège de milliers de migrants vers les États-Unis pour replacer la question de l'immigration au cœur de la campagne des élections de mi-mandat pour galvaniser sa base. Le point avec Jacques Aristide.
C'est un as contre notre pays, a déclaré Donald Trump devant des partisans enflammés au Texas lundi. Le Texas, un État qui fait frontière avec le Mexique. Le locataire de la Maison-Blanche a donc repris le sujet de l'immigration qui était au cœur de sa campagne présidentielle en 2016. Le 6 novembre, les Américains sont appelés aux urnes pour renouveler le Congrès contrôlé par les Républicains. Ce sera l'objet d'une âpre bataille face aux démocrates. Le Parti démocrate encourage des millions d'étrangers illégaux à enfreindre nos lois et violer nos frontières et submerger notre pays, a accusé le président américain. Donald Trump affirme que des personnes originaires du Moyen-Orient se sont glissées dans cette caravane de migrants, ainsi que des membres du gang salvadorien ultra-violent MS-13. Exténués après déjà 10 jours de longues marches, les quelques 7000 migrants, majorité honduriens, se trouvaient hier dans le sud du Mexique, à quelques 1800 kilomètres du poste frontière américain le plus proche.
Le Kremlin s'est dit mercredi, donc aujourd'hui, prêt à discuter d'une éventuelle visite officielle du président Vladimir Poutine aux États-Unis l'année prochaine, comme l'a suggéré le conseiller de la Maison-Blanche à la sécurité nationale, John Bolton. Nous sommes absolument prêts à examiner une telle possibilité, a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, précisant toutefois qu'aucune décision concrète n'a été prise à ce sujet. Le meurtre odieux du journaliste saoudien Jamal Khashoggi est impensable sans le soutien des États-Unis, a déclaré aujourd'hui le président iranien Hassan Rouhani en conseil des ministres. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Je vous retrouve à 10h pour un nouveau bulletin d'information, disons à 13h temps universel. Merci d'être à l'écoute de la Voix de l'Amérique. N'oubliez pas de visiter notre page web voaafrique.com et aussi notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.